J'ai intitulé cette méditation que je vous propose « Du paraître à l'être, nous sommes tous frères ». Chers frères et sœurs, et j'insiste particulièrement sur cette expression, peut-être ce matin, vous allez comprendre très vite, l'évangile de ce jour, dans l'évangile de Matthieu, est assez déroutant. Il est déroutant tout simplement parce qu'il y a un final qui pourrait être ainsi résumé. La vraie grandeur, c'est de servir et de s'abaisser, plutôt que de s'élever parmi les hommes. Quiconque s'élevera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Il est vrai que l'Évangile nous a souvent habitués au paradoxe, au décalage, au déplacement, à des contradictions, à une logique qui n'a rien à voir avec la logique humaine que nous observons autour de nous. Déroutant aussi parce que Jésus se montre assez impitoyable, intraitable avec les pharisiens et les scribes. Ce n'est pas le seul passage, c'est vrai, dans la Bible où il s'exprime comme ça, mais par ses paroles dénonciatrices, où il abaisse ce qui est élevé, il abaisse ceux qui ont autorité. Et ceux qui ont autorité à ce moment-là, en ce lieu-là, ce sont les pharisiens et les scribes. Alors voyons de plus près ce que Jésus leur reproche. À ces maîtres de la loi, chargés d'expliquer habituellement, de commenter les Écritures et d'enseigner les croyants. Premier grand thème, ils dénoncent leur incohérence, leur hypocrisie, leur manque d'intégrité. Les conducteurs religieux du peuple faisaient souvent devant les hommes des œuvres qui leur donnaient une apparence de grande piété. Jésus dévoile leur hypocrisie. Il ne s'agit que d'une apparence, d'un paraître, d'une pratique religieuse extérieure car ils désiraient être vus des hommes. Ils disent, mais ils ne font pas, nous dit-il. Tiens, voilà une étrange similitude avec l'actualité de certaines autorités politiques ou religieuses. Un constat grave qui les décrédibilise souvent, qui font même que parfois les gens ne veulent plus aller voter. Un constat grave qui entame la confiance dans les autorités publiques. Ici, il insiste sur le fait que, en fait, ils écrasaient. Et c'est l'image de ce fardeau très lourd à porter. Ils écrasaient les gens d'exigences tout à fait rigoureuses de la loi, d'exigences trop lourdes à supporter. Ils insistaient sur tellement de détails, de règles à respecter, en oubliant le message essentiel, celui de l'amour et de la fraternité nécessaire. L'apôtre Pierre rappellera plus tard « Pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter ?» dans Actes des Apôtres 15, verset 10. Jésus a proposé aux siens aussi un joug plus aisé, un fardeau beaucoup plus léger. Et puis par rapport à l'hypocrisie, regardons-nous en face. Ne sommes-nous pas nous aussi pris dans des jeux de représentation ? De voir la vie comme une sorte de théâtre où on change de rôle en fonction de ce que nous devons faire, avec qui nous nous comportons, pour vivre en société. Qui, sortant de chez lui en colère, ne mettra pas le masque de la gentillesse en croisant la voisine qui ignore tout des raisons de notre colère? Qui, entrant dans une église et redoutant de croiser celui qu'il n'a pas envie de rencontrer, par exemple à cause de divergences de vues dans le passé, ne mettra pas sur son visage l'expression de la plus grande politesse en l'apercevant dans les allées du temple? C'est peut-être ce que certains appellent la diplomatie. Heureusement, Jésus ne parle pas de ces masques de la sociabilité tournés vers les autres. Il parle beaucoup plus des masques de l'hypocrisie malveillante qui dissimulent une ruse, poursuivent une intention plutôt égocentrique. Deuxième grand message, il nous appelle à cultiver, à l'inverse, une intégrité bienveillante et fraternelle. Le fait de dire ce que nous pensons, tout en évitant de faire du mal, mais aussi l'intégrité qui consiste à dire ce que nous allons faire et ensuite faire ce que nous avions dit que nous ferons. L'intégrité, en bon français, c'est ça, à mes yeux. Nous devrions tomber le masque plus souvent, ou plutôt être le meilleur de nous-mêmes, tel que nous le percevons au tréfonds de notre être. Et si nous ne sommes pas convaincus que Dieu nous aime malgré le mal que nous faisons, ou le bien que nous ne faisons pas, Alors nous restons dans la peur d'un Dieu qui condamne ce qu'il est précisément venu sauver. Alors nous restons sous le régime de la loi dans ce cas-là, sans jamais vivre la grâce. Or, le texte du jour vous l'a montré, on passe d'un respect excessif de la loi à l'appel de la grâce et à l'appel de la fraternité. Et il dit à ceux qui veulent le suivre, « Les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chair de Moïse. Faites et observez donc tout ce qu'ils diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Alors là, Jésus dénonce aussi ensuite la vanité, l'orgueil des pharisiens. Il n'est pas dupe de leur goût des honneurs, des premières places. Ils aiment les premiers sièges, vous l'avez entendu, les salutations sur les places publiques. Ils aiment se montrer, être reconnus comme maîtres et rabbis. En effet, à chaque catégorie sociale correspondait une salutation spécifique. Mais Jésus ne conteste pas leur autorité religieuse en tant que telle par rapport à la transmission de la loi, ni leur aptitude à être des interprètes attitrés, reconnus pour transmettre ces lois. C'est leur autorité devenue autoritarisme qui pose problème. C'est leur volonté de domination, leur désir de paraître, de faire les supérieurs qu'ils critiquent. Arrêtez vos simagrées, vos comédies, vos singeries, vos salamelecum, à n'en plus finir, ces génuflexions, courbettes et baise-mains en tout genre. Cessez de faire croire que vous êtes vraiment grand ou supérieur aux autres, leur fait-il comprendre. Jésus nous appelle aussi à une certaine humilité. Je pense que les textes choisis dans le début de notre culte déjà annonçaient ce mot. Jésus condamne les chefs religieux de son époque qui tiennent à occuper les premières places pour les remettre à une place plus égale avec les autres, à ne plus étaler les signes de leur richesse. Un seul est grand, c'est Dieu. Et disons avec le psaume 131 que nous avons entendu, « Seigneur, mon cœur est sans prétention, mes yeux n'ont pas visé trop haut. » Un seul est votre Père, c'est ce que Jésus a dit à plusieurs reprises dans le discours sur la montagne, rappelez-vous, chapitre 5, 7, « Depuis sa mort et sa résurrection, chaque croyant connaît le Père. Il a été adopté par Dieu, pour Dieu, par Jésus-Christ. » Dans Éphésiens, nous l'avons entendu. Et il fait partie de sa famille. Il est le Père et nous sommes ses enfants et nous sommes tous frères. En jouissant des liens fraternels qui unissent les enfants de Dieu, gardons-nous de nous élever les uns au-dessus des autres. Jésus montre quelle est la vraie grandeur du disciple du Christ. De nombreux autres textes y font référence. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Luc également, au chapitre 22, disait « Que le plus grand parmi vous soit » comme celui qui sert, or moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Lui, le vrai serviteur, il a pris constamment la dernière place, de la crèche à la croix. Il a été obéissant jusqu'à la mort. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé très haut. Que nous puissions avoir en nous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. Ça c'est dans l'Épître aux Philistins. Et servir dans l'humilité, le renoncement et l'obéissance. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Alors, à notre époque où nous parlons beaucoup de la confiance en soi qui est nécessaire pour exercer nos activités, professionnelles en particulier, de la nécessité de savoir assumer nos talents jusqu'au plus haut de nos capacités, n'y a-t-il pas là une contradiction entre l'humilité et ce qu'on appellera l'affirmation de soi ? En fait, il n'y a pas de contradiction entre la conscience de ce que nous sommes, de la confiance que nous devons avoir en nous-mêmes, et l'appel à l'humilité dans la simplicité. L'essentiel n'est donc pas l'apparence, mais ce qui peut être mis en valeur en faisant appel au tréfonds de notre cœur. Et ça, c'est intéressant. Et là, je vais vous lire quelque chose qui est également exprimé par Martin Luther dans sa préface à l'Épître aux Romains. Le petit mot « loi », tu ne dois pas le comprendre de manière humaine, à savoir que c'est un enseignement sur les œuvres à faire ou à ne pas faire. C'est ainsi qu'il en va des lois humaines, où l'on satisfait la loi par des œuvres, même si le cœur n'y est pas. Dieu juge d'après le tréfonds du cœur, c'est pourquoi sa loi exige aussi le tréfonds du cœur. Il ne se contente pas des œuvres, il condamne bien plus les œuvres qui ne sont pas faites du fond du cœur comme étant de l'hypocrisie et du mensonge. dont vous voyez, mon commentaire de tout à l'heure introduisait aussi cette citation quelque part. Quand le réformateur écrit, il s'adresse ainsi à son lecteur en le tutoyant, car il parle à sa sincérité, à sa conscience, au tréfonds de lui-même. Quand agissons-nous par amour de Dieu et du prochain réellement? Quand nos prières et nos chants sont-ils habités par cette foi confiante qui nous dispense de remettre les masques que nous avons fabriqués pour nous offrir à bon compte une image, pour paraître à l'extérieur? Lorsque le respect de la règle occulte, assombrit l'esprit, l'hypocrisie nous guette. En grec, le jeu de l'acteur se dit « hypocrisis », c'est-à-dire une crise sous-jacente, l'hypocrisie, hypocrisis. Alors c'est quoi cette crise? C'est quoi cette division intime que nous voulons cacher sous nos masques quand nous voulons passer le détail d'un rituel avant la grandeur de la grâce? Quand nous nous accrochons à des pratiques de circonstance en les élevant au rang de tradition pour mieux juger ceux qui ne le respecteraient pas? C'est là que Jésus nous répond en faisant simple. Il fait court, il fait bref, il fait direct. Prenant le contre-pied de ces attitudes tout à fait condamnables, il s'adresse à ses disciples, il s'adresse à la foule, et ça y est, d'ailleurs, s'adresse d'abord à la foule avant de s'adresser aux pharisiens et aux scribes, vous l'avez remarqué. Et il nous dit « Vous êtes tous frères ». Voilà qui est bref. Plutôt que d'entrer dans le jeu des titres, des honneurs, des premières classes, comme le manifeste le judaïsme déviant à l'époque, « Vivez en frères, car vous êtes tous frères ». En cette période de la Toussaint, « tous saints », il n'est pas inintéressant de nous rappeler que nous sommes tous frères. Tous frères et sœurs, mesdames, messieurs, devrions-nous dire. Certaines ont voulu introduire le mot de sororité, et pas simplement de fraternité, pour qualifier la solidarité entre les femmes, entre les sœurs, et certains même ont proposé un terme nouveau, l'adelphité, si vous voulez regarder ça de près, adelphité, pour regrouper hommes et femmes ensemble de manière neutre et inclusive. Bon, conservons pour nous, pour simplifier ce mot de fraternité qui doit concerner tout être humain, dont personne, et surtout pas de femme, ne doit se sentir exclue. Et si cette fraternité est rendue possible, et si ce mot qualifie cette identité commune, eh bien, c'est qu'elle est scellée, elle est fondée par le Maître, le seul Maître, un seul Maître, et vous êtes tous frères. C'est en lui que nous sommes unis, rendus frères, car nous sommes tous d'une même famille, celle de Dieu, dont le Père s'est manifesté en Jésus-Christ. Et si par grâce je suis déclaré dans mon identité enfant de Dieu, aimé de manière inconditionnelle, c'est la même grâce en Jésus-Christ qui déclare l'autre, mon prochain, comme mon frère, comme une sœur, de manière inconditionnelle. Son identité n'est pas conditionnée par la réussite, qu'il soit docteur, maître ou savant, ni à ses échecs, souvent provisoires, ni à son rang social, qu'il soit membre des classes supérieures ou au contraire un exclu de la société. En l'accueillant comme un frère, je vois sur lui l'accueil inconditionnel de Dieu, qui le regarde au-delà de ses échecs, de ses réussites ou de ses œuvres. Cette identité que Dieu lui donne, qu'il m'invite à vivre avec lui, ce respect, cette attention inconditionnelle, eh bien c'est la grâce. Il est mon frère, il est ma sœur, je ne peux pas l'ignorer, je ne peux pas me détourner de lui, car il m'est lié à moi, qu'on le veuille ou non, car Dieu en Christ l'a lié en moi. Alors parler ainsi de fraternité, c'est dire la grâce de Dieu qui repose sur moi comme sur lui. C'est nous introduire à la rencontre, au partage, à l'écoute, au soutien mutuel. C'est nous inviter à la solidarité. Inutile, dit Jésus, de vous appeler maître, etc., docteur, rabbi, ou que sais-je encore, car en Christ, de nouveaux rapports humains sont introduits qui disent la fraternité. Nos identités ne sont pas non plus réductibles à nos professions. Nous ne nous définissons pas uniquement par l'activité professionnelle que nous exerçons, ou nous ne sommes pas non plus réductibles à nos échecs. On ne doit pas mettre une étiquette sur les uns et sur les autres en fonction des aléas de la vie. Nous sommes frères et sœurs par le Christ et les prochains que nous rencontrons dans la vie courante, sont à regarder comme des frères et des sœurs potentielles du royaume. Ce beau mot de fraternité est à vivre entre nous, avec celles et ceux que nous rencontrons tous les jours. Nous sommes rassemblés ce matin en un lieu qui rend visible cette fraternité nouvelle. Heureusement, nous ne sommes plus en vidéo, en visio avec la période du Covid. Nous nous voyons, nous avons plaisir à nous rencontrer. Eh bien, cette fraternité, elle est reçue, elle est donnée par grâce. C'est une fraternité à vivre, à incarner en paroles et en gestes d'amour, de justice et de partage. C'est aussi le symbole de la scène, le repas du Seigneur que nous allons partager tout à l'heure. Puissions-nous tous, petits et grands, être pénétrés de l'esprit du Christ dans son service, ne cherchant jamais à paraître, mais à être nous-mêmes, à nous et aux autres, toujours prêts à servir, avec humilité, tout en cherchant à réaliser pleinement le meilleur de nous-mêmes.